Écho d'ici, écho d'ailleurs. Bruno Faure, Guillaume Munier.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission qui suit l'actualité économique à la trace. Une semaine marquée par un paradoxe majeur. Chaque jour, des millions de nouveaux cas de Covid-19, une courbe toujours verticale, mais de nombreux pays qui mettent fin aux restrictions au nom, entre autres, de la raison économique. La vaccination progresse, mais pas partout. L'inflation va durer et pénaliser les moins fortunés, reconnaît le patron de la Banque centrale américaine.
Inflation, right away, forces people like that to make very difficult decisions.
Jérôme Powell, inquiet pour les chaînes d'approvisionnement alors que les entreprises aux États-Unis manquent cruellement de semi-conducteurs. Jérôme Powell qui a mis fin au suspense. Oui, la Fed va bien remonter ses taux d'intérêt sans doute à partir du mois de mars. Un signal envoyé à la planète économie. On va analyser cela dans un instant avec Vincent Ponce, professeur d'économie à la Harvard Business School en ligne de Boston. Parmi les grands pays qui se posent des questions, la Chine, bien sûr. On reparle de ces conflits commerciaux avec les Occidentaux dans un contexte géopolitique particulièrement tendu. La question ukrainienne est au centre des débats. Mais aussi l'autre géant d'Asie, l'Inde. Et c'est à ce pays si singulier et en pleine ébullition économique que nous avons décidé de consacrer cette semaine notre dossier. L'Inde qui gagne, notamment dans le domaine des nouvelles technologies, les patrons de Google, Microsoft, Adobe, IBM sont d'origine indienne. L'Inde à la conquête du monde. Nous serons en Ouganda et avec un jeune entrepreneur à Bangalore. Mais l'Inde qui souffre de graves carences, les inégalités notamment aggravées par la crise sanitaire et le chômage. L'économiste et grand voyageur Jean-Joseph Boileau nous offrira son regard sur ce pays continent à deux vitesses. Bienvenue dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs. À écouter, à partager, à commenter sur RFI Écho, en deux mots. RFI Écho, notre compte Facebook ou Twitter. A tout de suite. Direction sans plus attendre Boston, dans le nord des États-Unis, où nous attend Vincent Ponce. Bonjour.
Bonjour.
Vous enseignez l'économie à la Harvard Business School, l'une des écoles de management les plus réputées dans le monde. Comment interpréter ce message de la Fed ? Les taux d'intérêt vont monter, mais sans doute pas tout de suite. Pourquoi attendre ?
Donc en fait, le message important là, c'est que les taux d'intérêt vont monter. Et la raison de ça, c'est que la Fed a fait le constat que l'inflation était élevée, qu'elle augmentait chaque mois. Au mois de décembre, elle était de 7%. Et donc, elle répond de la façon traditionnelle, c'est-à-dire en annonçant une augmentation des taux. L'augmentation n'a pas lieu immédiatement, puisque une augmentation immédiate sans annonce préalable aurait pu créer une panique sur les marchés et dans l'économie américaine.
Donc, ce problème d'inflation n'est pas si urgent qu'il faille augmenter les taux d'intérêt là dans les 15 jours qui viennent.
En tout cas, le constat qui est fait, c'est qu'aujourd'hui, c'est le problème le plus important dans l'économie américaine. Il faut savoir que la Fed, par différence avec la Banque centrale européenne, par exemple, a un double mandat. Donc, elle a deux objectifs. Le premier, c'est de réduire le chômage. Le second, c'est de limiter l'inflation. Et aujourd'hui, elle fait le constat que le premier objectif est atteint, puisqu'en effet, le taux de chômage est faible, historiquement faible aux États-Unis. En revanche, il y a beaucoup à faire sur le second objectif pour éviter que l'inflation s'emballe avec, par exemple, une spirale inflationniste entre les prix et les salaires.
Est-ce que ce risque d'hyperinflation dont on parle tant ailleurs dans le monde aussi, est-ce que ce risque est surestimé, par exemple, aux États-Unis ?
Alors, quand on parle d'hyperinflation, on parle de taux d'inflation qui sont à 50%, 100%, qui augmentent. Donc, on est quand même très, très loin de ce scénario.
Qui existe aujourd'hui dans certains pays comme l'Argentine ou le Liban, peut-être.
Voilà, donc on est quand même dans une situation très différente aux États-Unis. On reste aussi dans une situation qui est assez différente de l'inflation élevée qui avait eu lieu dans les années 70, puisque là, on avait une inflation de 15%. Aujourd'hui, l'inflation est deux fois plus faible que ça. Mais quand même, c'est vrai qu'on n'a pas eu de taux d'inflation aussi élevé depuis 30-40 ans aux États-Unis. Donc, ça agite un petit peu tout le monde pour de bonnes raisons.
Et c'est un problème politique pour le président Joe Biden et pour ses partisans.
C'est évidemment un problème politique, puisque l'inflation, qu'est-ce que ça signifie ? Bah, tout simplement que quand vous allez faire les courses, les prix sont plus élevés. Et aujourd'hui, la hausse des prix est plus importante que la hausse des salaires. Donc, le pouvoir d'achat des Américains diminue, je dirais, de jour en jour.
Vous parlez des salaires, justement. Le bras de fer est en cours hein, entre les candidats potentiels à l'emploi et les entreprises. On parle beaucoup en ce moment de cette fameuse vague de démissions dans les entreprises américaines. Est-ce que ça perturbe la vie économique ?
Oui, vous avez raison. Donc aujourd'hui, il y a un phénomène assez curieux aux États-Unis hein, qui est qu'il y a un nombre très important de gens qui quittent leur travail de façon volontaire, donc sans licenciement, c'est eux qui prennent l'initiative de quitter leur travail. C'est un phénomène qui est assez classique dans une période de reprise économique comme la période actuelle, donc il y a des explications conjoncturelles à ce phénomène, mais en plus de ça, il y a quelque chose de spécifique puisque en général, ce qu'on voit, c'est des gens qui quittent leur travail pour essayer d'obtenir de meilleures conditions d'obtenir un meilleur salaire dans un nouveau travail, alors qu'aujourd'hui, beaucoup de gens quittent le travail pour sortir du marché du travail, donc sans perspective de nouvel emploi.
Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elles comptent faire, ces personnes ?
Alors, les personnes les plus âgées prennent une retraite anticipée, des personnes plus jeunes, puisque ça touche aussi des catégories d'âge beaucoup plus jeunes qui viennent de rentrer sur le marché du travail, peuvent décider de quitter leur travail pour aller s'occuper de leurs enfants, pour aller s'occuper de leurs aînés. Et l'interprétation qui est faite aujourd'hui, à partir d'un ensemble d'anecdotes et d'entretiens qui sont réalisés auprès de la population américaine, c'est que la raison de ces départs est en grande partie le fait qu'à l'occasion de la pandémie et des perturbations du quotidien qui ont été occasionnées par le Covid-19, beaucoup de gens se sont posé la question de changer la façon dont ils organisent leur vie. Et notamment les personnes qui ont un travail précaire ou un travail qu'ils jugent peu intéressant, eh bien, se demandent s'ils ne devraient pas tout simplement sortir du marché du travail.
On a dit il y a quelques mois que ces démissions massives étaient dues aux aides massives de l'État qui, on va dire, encourageaient à bénéficier de ces aides. Finalement, on voit que ça continue, même après la fin des aides.
Exactement, puisqu'en fait, ces aides se sont interrompues. Donc, il y a eu des aides chômage exceptionnelles et d'autres aides qui ont été distribuées pendant la pandémie hein, pour soutenir l'économie, pour aider les ménages à traverser cette période difficile. Mais tous ces programmes se sont progressivement interrompus. Les aides chômage exceptionnelles se sont interrompues en septembre. Et on voit que le nombre de démissions augmente. Il a atteint un record de 4,5 millions de démissions au mois de novembre. C'est compliqué d'expliquer ça entièrement, en tout cas, par les aides qui ont été données pendant la pandémie.
Vincent Ponce, le patron de la Fed, Jerome Powell, s'est dit très inquiet aussi au sujet des chaînes d'approvisionnement. Les entreprises américaines n'auraient que quelques jours de réserve en semi-conducteurs. C'est là aussi une grosse préoccupation ?
C'est une grosse préoccupation parce que, évidemment, quand les chaînes d'approvisionnement sont désorganisées, eh bien, l'offre diminue. Et quand l'offre diminue, vous avez une raison supplémentaire de l'inflation. Donc, la raison pour laquelle on a une inflation à 7% en décembre, une inflation qui est si élevée aujourd'hui, c'est en grande partie parce que les chaînes d'approvisionnement sont désorganisées. Et en fait, la surprise ici, c'est qu'on pensait que c'était un phénomène temporaire qui venait de la désorganisation, encore une fois, due à la pandémie. Mais ce phénomène se poursuit en grande partie parce que la pandémie n'est toujours pas sous contrôle et que des pays comme la Chine, par exemple, décident dans leur stratégie de Covid-0 de mettre sous lockdown toute une région. Et donc, évidemment, tous les biens qui étaient acheminés depuis cette région, depuis les ports situés dans cette région, ne peuvent plus arriver dans le reste du monde, y compris aux États-Unis.
Donc, c'est un phénomène qui s'alimente lui-même. On est dans un cycle infernal.
Je ne sais pas si on peut parler de cycle infernal, mais il y a clairement aujourd'hui la crainte que l'inflation s'installe et que du coup, des anticipations d'inflation s'installent. Et le problème, c'est qu'une fois que les anticipations d'inflation s'installent, c'est-à-dire qu'une fois que tout le monde pense que l'inflation va continuer, va peut-être même s'accélérer, eh bien, ça affecte les décisions, par exemple, par les entreprises de prix, puisqu'ils disent, tiens, l'inflation va être plus élevée dans le futur, donc je vais augmenter mes prix dès aujourd'hui. Ça peut affecter aussi les salariés qui disent, j'ai besoin de demander un salaire plus élevé pour faire face à ces prix plus importants. Et donc, on peut être dans une spirale de hausse des prix et de hausse des salaires qui devient hors contrôle.
Avec des stocks pour certains produits qui sont au plus bas et la demande est toujours la même ou quasiment la même.
La demande est toujours la même et en réalité même, en raison de la pandémie, il y a eu un changement dans la structure de la demande. C'est-à-dire que beaucoup d'Américains, par exemple parmi les plus âgés, ont peur d'aller au restaurant, ont peur de sortir et donc la demande de services a diminué. Et elle a été substituée par une demande de biens plus importante. Donc, un exemple classique, c'est qu'au lieu d'aller à la salle de sport, eh bien, les gens ont acquis des biens pour faire du sport chez eux. Ça accentue encore la tension, évidemment, sur l'offre, puisque donc on a une offre qui est affaiblie par les problèmes d'approvisionnement et une demande de biens qui est anormalement élevée puisqu'elle remplace la demande de services.
L'économie américaine en surchauffe. Est-ce que l'expression vous convient, Vincent Ponce ?
Non, je pense que ça, c'est un peu hâtif quand même comme expression, puisque quand on regarde le niveau du PIB, on est à peu près de retour sur la trajectoire qu'il y avait avant le Covid, mais on n'est clairement pas au-delà. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus s'alarmer outre mesure. Mais clairement, là, l'inflation s'est installée. Hein, il y a eu pendant longtemps cette question, est-ce que c'était temporaire, est-ce que c'est durable ? De plus en plus, on considère qu'il y a un aspect durable, une composante durable, et donc la Fed a évidemment raison de s'attaquer à ce problème.
Est-ce que ce contexte défavorable, de façon globale, est-ce que ce contexte complique le travail de Joe Biden, le président américain ? Est-ce qu'il a renoncé à continuer ses réformes de l'économie américaine, les réformes sociales, les grands travaux, par exemple ?
Oui, alors je pense qu'il y a deux choses qui compliquent le plan économique de Biden, puisqu'il avait un plan très ambitieux de grands travaux, de dépenses de l'État pour les 10 prochaines années. La première complication, c'est que même avant que l'inflation s'installe, il avait une majorité extrêmement serrée au Sénat, hein, puisqu'il avait seulement 50 sénateurs démocrates contre 50 républicains. Et il avait du mal à convaincre l'ensemble des 50 démocrates de soutenir ce plan. Alors aujourd'hui, évidemment, la tâche est d'autant plus compliquée que, comme l'inflation est élevée, personne ne veut voir le gouvernement augmenter ses dépenses de façon disproportionnée.
Donc les élections de mi-mandat vont avoir des conséquences potentielles sur l'économie américaine.
Je pense qu'il faut s'attendre à ce que Joe Biden et les démocrates perdent les élections de mi-mandat. Alors c'est encore dans un an, donc beaucoup de choses peuvent se passer, mais aujourd'hui ils sont dans une position défavorable puisqu'ils ont une majorité qui est encore une fois très petite au Sénat, hein, enfin, qui est juste de 50 contre 50. Donc il suffit qu'ils perdent un ou deux sièges de sénateurs pour être en minorité au Sénat. Et à la Chambre, leur majorité est un peu plus confortable, mais elle reste petite. Donc, il y a un scénario avec une probabilité non nulle que Biden perde à la fois la Chambre et le Sénat lors des élections de mi-mandat.
Puisqu'on a dérivé sur la politique, parlons de géopolitique. Les tensions actuelles avec la Russie sur le dossier ukrainien, en lien avec les questions gazières, les tensions avec la Chine, tensions commerciales, ça ne tombe pas bien non plus pour le président Biden.
Alors ça, c'est moi, je ne suis pas expert en géopolitique, mais mon impression, c'est qu'en fait, en politique intérieure, Joe Biden est un peu bloqué, puisque certes, il faut régler le problème de l'inflation aujourd'hui, mais en fait, ce n'est pas lui l'acteur principal. On a parlé de l'acteur principal, c'est la Banque centrale, c'est la politique monétaire, et donc qui est indépendante de Joe Biden. Et donc finalement, le fait qu'il y ait des choses à faire sur le plan extérieur est paradoxalement peut-être pas une si mauvaise nouvelle pour Biden, puisqu'il va pouvoir faire la démonstration de son utilité, de sa vision pour les électeurs américains, ce qu'il aura du mal à faire là, dans les prochains mois sur le plan de la politique économique interne.
Dernière question, Vincent Ponce. Il y a cette lutte contre le Covid qui continue sur le sol américain. On a encore énormément de cas nouveaux chaque jour aux États-Unis. On a encore de nombreux morts. C'est là aussi un enjeu majeur pour l'économie américaine.
Oui, complètement, puisque tant que la question du Covid n'est pas réglée, eh bien, un certain nombre de dérèglements dont on parlait tout à l'heure, hein, donc par exemple le fait que la demande de services soit anormalement faible, la demande de biens anormalement élevée, eh bien ces problèmes vont se poursuivre. Et la difficulté ici pour Biden, c'est que la politique contre le Covid dépend en grande partie des États, des 50 États, plutôt que du niveau fédéral. Et je pense que la raison pour laquelle il y a un nombre si élevé de cas encore aujourd'hui aux États-Unis, c'est que le taux de vaccination est assez faible par comparaison avec la France ou avec d'autres pays européens. Et c'est quelque chose sur lequel Biden a assez peu de prise. Donc, il essaie, par exemple, de distribuer des tests gratuits, etc. Mais il a du mal à augmenter le taux de vaccination puisque c'est une politique qui relève en grande partie des États.
Merci à vous, Vincent Ponce. Bonne journée à Boston, Vincent Ponce, professeur à la Harvard Business School. Après les États-Unis et avant notre dossier sur l'Inde, notre conseil d'écoute de la semaine dans le pays voisin, le Pakistan. Grand reportage de notre correspondante Sonia Ghezali avec les producteurs de lait. Près de 40 millions de personnes dépendent de ce secteur artisanal qui échappe le plus souvent au contrôle sanitaire. Voilà comment nous coupons le lait avec de l'eau.
j'ai ajouté 10 litres d'eau à 30 litres de lait. De cette façon, je peux gagner 50 roupies, soit 25 centimes d'euros de bénéfice par litre.
Il ne sait rien de la qualité de cette eau courante qu'il ajoute au lait frais des vaches et des bufflones. Pourtant, de récents rapports sur la qualité de l'eau dans le Punjab sont alarmants et indiquent qu'elle est polluée et désastreuse pour la santé. Mohamed Nadim n'est pas perturbé pour autant, il ne fait que suivre des méthodes anciennes, dit-il.
Depuis que nous avons commencé ce business, nous coupons le lait avec de l'eau. C'est le seul moyen pour nous de faire du profit. Vous savez, la majorité de nos clients sont pauvres, ils n'ont pas les moyens d'acheter du lait pur. Alors quand on coupe le lait avec de l'eau, il est moins cher et donc plus accessible à l'ensemble de la population. Et cela nous permet de faire des bénéfices. Donc c'est bien pour tout le monde. Vous ne pouvez pas être dans ce secteur et ne pas mixer le lait avec de l'eau avant de le vendre, car ce n'est plus intéressant financièrement. Nous avons même dû augmenter le prix de notre lait à cause de l'inflation.
Une inflation galopante qui a atteint les 10% l'année dernière et qui accable la population.
L'arnaque du lait au Pakistan, un désastre sanitaire. Grand reportage de Sonia Ghezali à écouter en intégralité sur notre site RFI.fr et sur nos supports numériques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.
Et comme promis, nous partons maintenant dans un géant d'Asie, pays aux deux visages. Jana Gana Mana, tu es le souverain de toutes les âmes. L'hymne national de l'Inde dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Où en est ce pays géant, près d'1,4 milliard d'habitants et qui va rapidement dépasser la Chine si ça n'est pas déjà fait. L'Inde dont on parle trop peu tant les enjeux sont importants. Bonjour Jean-Joseph Boileau.
Bonjour.
Économiste, spécialiste des grands pays émergents, la Chine, l'Inde, grand connaisseur aussi de l'Afrique, à qui vous consacrez beaucoup de vos voyages. Vous êtes en ligne et à distance. Covid oblige. Première question directe. Les derniers chiffres officiels, y compris ceux du FMI, parlent d'une croissance encore très soutenue pour l'Inde. 9% en 2022, 7% en 2023. Tout va bien pour ce pays?
Ah, on peut faire dire aux chiffres ce que l'on veut, évidemment. Non, il faut faire très attention. Ce chiffre n'a absolument aucun sens. C'est ce qu'on appelle un rebond. C'est-à-dire qu'il y a eu l'année dernière un des pays qui a été le plus touché du monde par l'épidémie du Covid et qui a fait entre -7 et -10% de croissance. Dans le cas de l'Inde, il faut faire attention, les données statistiques sont assez souples. Donc moi, je préfère les fourchettes entre -7 et -10. Et il y a eu une reprise, effectivement, ce qu'on appelle un rebond, qui fait que cette année, on s'acheminait vers plutôt 9% de croissance, avec la vague Omicron qui est arrivée tardivement en Inde et qui ralentit quand même sensiblement l'économie. On devrait être aux alentours de peut-être un rebond de 8%, ce qui veut dire, vous comprenez, que quand vous avez moins 8 plus 8, vous faites un peu de surplace.
Donc moi, c'était pire qu'ailleurs pendant les confinements, et donc là c'est un rebond, on va dire, naturel.
Ben voilà, moi ce qui m'intéresse c'est de regarder sur le long terme. J'ai fait pour votre émission spécialement une sorte de lissage dans le temps, et j'ai regardé depuis 2018 ce que en gros donnait le produit intérieur brut indien, et j'obtiens avec le rebond à 9%, donc je prends plutôt le chiffre haut, alors qu'on a des experts qui parlent aujourd'hui de plutôt 8, on est à moins de 3% de croissance par an en moyenne depuis 2018. Pour un pays qui fait encore en croissance démographique un peu plus de 1,5, mais surtout qui, compte tenu de sa transformation structurelle, s'il ne fait pas 5% de croissance, c'est un pays dans les faits où il y a de la récession. Pas pour tous, mais où il y a de la récession. Donc non, l'Inde est pour l'instant, depuis pas mal d'années, et l'épidémie Covid n'a pas amélioré les choses, plutôt dans une situation de relative stagnation, avec des poches qui sont en croissance forte et des poches qui sont particulièrement frappé négativement.
Alors, on va revenir dans quelques minutes sur ces secteurs qui tirent l'Inde vers le haut. Avant cela, on va appeler notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farsi. Bonjour Sébastien.
Bonjour Bruno, bonjour Jean-Joseph.
L'un des problèmes de l'Inde actuellement, c'est la création d'emplois. L'Inde souffre depuis des années de cette croissance sans emploi, une situation qui n'a fait qu'empirer avec le Covid. L'une des particularités de l'économie indienne, c'est qu'elle dépend de ses services et qu'elle manque surtout d'industrie.
Oui, tout à fait. En fait, l'économie indienne a un profil assez atypique pour un grand pays émergent de cette taille. La moitié des actifs travaillent en effet dans l'agriculture, alors que ce secteur ne contribue qu'à 20% du PIB indien en moyenne. À l'inverse, les services, eux, contribuent à plus de la moitié du PIB, mais n'emploient qu'un tiers des actifs. En gros, eh bien, la richesse de l'économie indienne, elle est bien apportée par ces services informatiques délocalisés et autres centres d'appel qui règlent les problèmes informatiques du monde entier. Mais ce secteur est réservé aux élites éduquées, un secteur qui ne peut absorber les 10 millions de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. En Chine et dans d'autres grands pays, c'est l'industrie qui a absorbé cette masse de travailleurs qui délaissent souvent l'agriculture pour venir travailler en ville.
Et en Inde, ça ne s'est pas passé comme ça, ça n'a pas fonctionné.
Non, tout à fait. L'industrie, en fait, en Inde n'est pas assez développée. Elle ne contribue qu'à un quart du PIB indien. 15% en fait seulement pour les usines proprement dites, le reste venant surtout de la construction. Les raisons de cet échec de l'industrie indienne sont multiples. La main-d'œuvre est trop chère par rapport à la Chine et au Bangladesh voisin. Les problèmes administratifs et logistiques énormes dans un pays fédéral compliqué et assez corrompu.
Et d'où cette crise de l'emploi, Sébastien ?
Oui, tout à fait, hein, Bruno. Le gouvernement indien a eu beau lancer un grand plan du Make in India pour inciter les entreprises étrangères à faire fabriquer leurs produits en Inde, l'industrie indienne n'a pas décollé. La contribution de ce secteur dans le PIB a en fait baissé depuis 10 ans. Et à cause de la mécanisation, eh bien, la part d'actifs indiens employés dans l'industrie stagne depuis 2011. Une dégradation qui s'est accrue, bien sûr, avec la crise sanitaire et économique actuelle. Et cela entraîne deux phénomènes. D'un côté, comme le marché de l'emploi est morose et la société indienne très patriarcale, eh bien un nombre croissant de femmes sortent du marché du travail et restent s'occuper du foyer. C'est ainsi qu'en 2020, seulement 26% des femmes de plus de 15 ans sont officiellement actives en Inde, contre 37% en 2001. C'est l'un des taux les plus bas de la région, Bruno. Les jeunes hommes peu diplômés, eux, qui viennent en ville, travaillent soit dans la construction, soit comme livreur dans des conditions très précaires pour les très nombreuses start-up qui émergent dans le pays.
Merci Sébastien. Je reviens vers vous, Jean-Joseph Boileau. Des problèmes structurels qui handicapent ce géant asiatique.
Oui, alors structurels et aussi parce que, et ça va intéresser beaucoup nos amis africains, je pense, on cherche toujours à comparer la Chine et l'Inde en disant que l'Inde va être une nouvelle Chine. On pense que les modèles sont réplicables. Or, il n'y a pas du tout de possibilité de répliquer, évidemment, le modèle chinois en Inde. Et l'Inde est à la recherche, à partir des années 80, quand elle a rompu avec son modèle de self-reliance, de modèle économique très fermé, très planifié, est toujours à la recherche d'un modèle économique qui correspond bien, si vous voulez, à ses préférences collectives de structure. Le fait d'être non pas religieux au sens nécessairement de l'exercice religieux, mais au sens de la spiritualité. J'ai toujours été frappé en Inde de voir à quel point il y a des castes qui mettent l'accumulation de richesses au premier plan, mais la majorité des Indiens ne sont pas du tout dans cette orbite-là. Et donc la difficulté pour l'Inde est de trouver un modèle économique qui marche. Et il n'y arrive pas, c'est le moins qu'on puisse dire. De sorte que vous avez, par exemple, un pays qui vous dit « je vais libéraliser, je vais améliorer » et chaque année on a des tas de nouvelles mesures législatives en faveur des entreprises, des investissements étrangers, mais en réalité aucune ne marche. Et on a même le paradoxe suivant, c'est que chaque année on a de nouvelles lois qui se surajoutent aux anciennes lois et qui rendent l'approche du marché indien extrêmement compliquée.
Vous parlez d'un modèle fermé, l'Inde est quand même en train de s'ouvrir un peu au commerce international. Récemment, l'Inde a autorisé, par exemple, les importations de porcs américains, les cochons, et ça, c'est la première fois.
Ah oui, il y a eu un effet d'annonce considérable, bien évidemment. Comprenez bien que en Inde, la consommation de porc n'est pas particulièrement développée, si je peux me permettre. Donc, c'est une mesure, au contraire, qui est symbolique de quoi ? d'une tentative de redéploiement géopolitique qui est en cours. En fait, ce n'est pas une tentative, il y a un redéploiement géopolitique qui est en cours et qui, face à la Chine, si vous voulez, met progressivement l'Inde sur l'orbite d'une sorte d'alliance contre la Chine, qui est prudente parce qu'en même temps, le grand allié de l'Inde, c'est la Russie, et que la dernière visite du président russe s'est traduite par tout un ensemble de nouveaux données, si vous voulez, de programmes en commun. Donc, je dirais, l'affaire du port américain dans un pays hindou et musulman, vous voyez, ça ne va pas être des tonnages considérables. Non, en réalité, le régime politique actuel, qui est un régime nationaliste populiste, est un régime qui est fondamentalement protectionniste. Et donc, sur le plan économique, parce que il y a tous des pans entiers de l'économie indienne dont Sébastien Farcy a parlé, par exemple les services informatiques qui dépendent du marché mondial. Donc il faut maintenir malgré tout une ouverture économique vis-à-vis du reste du monde. Mais quand vous prenez les ratios caractéristiques de l'ouverture, c'est-à-dire le commerce par rapport au PIB ou les investissements directs par rapport à l'investissement total, l'Inde reste fondamentalement une économie auto-centrée.
Alors, il y a quand même des tentatives pour faire venir des entreprises étrangères sur le sol indien. En ce moment, je crois qu'il y a des grands débats sur un projet de Tesla, l'entreprise d'Elon Musk, ce qui n'est pas si facile. Elon Musk a dit qu'il y a des défis qui retardent ce projet.
Bah écoutez, ça fait partie du même discours que les autorités indiennes essayent de vendre un peu au reste du monde, de dire, voyez, la Chine est un méchant pays, ne vous laissez pas enfermer sur le marché chinois, regardez, l'Inde c'est 1,5 milliard d'habitants, donc c'est le futur, la future Chine du reste du monde, et donc venez. Le problème, il est simple, c'est que la voiture électrique, Elon Musk est allé il n'y a pas longtemps ouvrir la nouvelle unité sur le marché chinois, et que la Chine, c'est la moitié des voitures électriques du monde. Inversement, quasiment le même jour, je crois que c'était le même jour d'ailleurs, Ford a annoncé qu'il se retirait, donc l'Américain Ford a annoncé qu'il se retirait du marché indien. Et quand vous prenez les données du marché de véhicules automobiles indiens, on reste dans une situation d'un nain automobile. Donc il n'y a pas entre la Chine et l'Inde pour les sociétés américaines là de choix cornélien. Elles ont toutes choisi la Chine et elles sont en Inde, bien évidemment, compte tenu de sa taille et de son potentiel, mais sur des micro-marchés, on dira.
On a commencé à parler de la technologie, l'Inde qui part à la conquête du monde. Je le disais en préambule dans le sommaire de l'émission, les patrons indiens prennent le pouvoir dans la Silicon Valley. Exemple avec Sundar Pichai, le patron de Google qui a grandi dans un deux pièces à Chennai, en Inde, il raconte.
Growing up in India. De mon enfance en Inde, je garde le souvenir de ces moments où ma famille a eu son premier téléphone et sa première télévision. Chaque nouvelle technologie a profondément changé nos vies. Ces expériences ont fait de moi un techno-optimiste et je le suis toujours.
Cet ascenseur social, Jean-Joseph Boileau, ça existe aussi, l'Inde qui gagne. Est-ce que c'est le résultat d'une politique d'éducation réussie dans certaines universités ?
Alors, il faut faire très attention à ce secteur. D'une part, à l'échelle mondiale, il est effectivement ce que, en gros, la Chine est à l'industrie. Dans les services informatiques, le dernier grand rapport qu'on a eu sur le sujet est absolument remarquable. Les cinq majors indiennes se placent désormais dans les 10 premières du monde, mais surtout elles se placent au numéro 2, 3, 4 et 5. Et pour les autres, comme Accenture qui est le numéro 1 ou Capgemini, le français qui est le numéro 6, plus de la moitié de leurs effectifs, je crois que c'est même quasiment 70% de leurs effectifs, sont en Inde. À quoi ça tient ? Ce n'est pas du tout la promotion d'une sorte de méritocratie. En réalité, tous ces gens et les chefs d'entreprise qui sont à la tête de ces géants informatiques, mais aussi leurs ingénieurs, sont tous des gens qui ont été éduqués dans les IIT, Indian Institute of Technology. Il y en avait 7, ils sont passés maintenant, je crois, à 13. Et là, ce sont les castes supérieures, en réalité, qui sont formées dans ces IIT. Pourquoi ? Parce que les concours d'entrée sont parmi les plus sélectifs du monde. Et donc, on a les classes moyennes supérieures, en réalité, qui mettent leurs enfants dans les écoles privées et pas dans les secteurs publics, et qui ensuite vont préparer ces fameux concours pour entrer dans les IIT, dont ils attendent quoi ? et ils attendent le passeport Made in USA, il faut le dire, c'est comme cela. Pourquoi ? Parce que les infrastructures en Inde pour ce secteur-là ne sont évidemment pas sous-développées, mais elles ne sont pas du tout à la hauteur de ce qu'attend un petit génie informatique qui, lui, va se dépêcher d'aller dans la Silicon Valley. Et lui, par contre, à partir de la Silicon Valley, il va sous-traiter en Inde ce qui sont les segments de moindre valeur ajoutée ou de moindre création. On a, si vous voulez, donc une, ce qu'on appelle un secteur offshore hein, qui s'est installé en Inde, à Bangalore, à Chennai, ou bien à côté de Delhi, ou à côté de Bombay, à Pune. On a des centaines de milliers de professionnels, on appelle ça les professionnels, qui, pour l'essentiel, sont rentrés non pas des milieux populaires vers ce qui serait une promotion sociale, mais qui sont restés dans les classes moyennes. Simplement, elles sont passées de la classe moyenne indienne relativement fermée à une classe moyenne internationalisée, et elle vit d'ailleurs de façon très internationalisée, café, des McDo, etc., comme mode de vie, mode d'alimentation. Ce secteur a failli connaître un grand échec au moment de l'introduction de l'intelligence artificielle, où là, le professionnel en Inde n'était pas adapté à ces nouvelles technologies. Et là, ce qui est frappant, c'est que l'épidémie du Covid, qui a complètement relancé finalement le secteur des IT, le travail à domicile, etc., vous utilisez des applications de type Zoom et autres, tout l'informatique du monde, on va dire, occidental, est aujourd'hui basé en Inde.
Ils sont là, les secteurs effectivement, qui tirent l'Inde vers le haut. Vous avez commencé à parler de Bangalore, on va y aller. L'Inde, c'est le pays des licornes, près de 100 dans le pays. C'est le troisième écosystème de start-up au monde. Après la vague informatique, ce sont maintenant les biotechnologies qui explosent. Un exemple avec la start-up Tropical Animal Genetics. Notre correspondant à Bangalore, Kombastin, a interrogé son fondateur, le docteur Pravin Kini. La jeune pousse veut maintenant s'attaquer à un problème bien particulier au pays de la vache sacrée.
India has the largest population of cattle in the world.
L'Inde a la plus grande population de bovins au monde, avec 350 millions de têtes. Mais seuls 100 millions de vaches produisent du lait. Auparavant, les bœufs étaient utilisés pour le transport ou le labourage. Mais aujourd'hui, la plupart des fermiers sont équipés de tracteurs. C'est devenu un problème national parce qu'en Inde, nous ne tuons pas les vaches. Alors la population de bovins augmente et devient excessive. Nous voulons contribuer à la lutte contre le changement climatique tout en améliorant la vie des fermiers.
Et quelle technologie avez-vous développée pour ça ?
Nous avons mis au point une technologie génétique pour séparer dans les banques de sperme les spermatozoïdes mâles et femelles. Ainsi, lorsque l'on insémine la vache porteuse, on n'obtient que des portées de femelles qui sont productives. Nous travaillons aussi sur les embryons afin de développer une vache qui produit 2 à 3 fois plus de lait en consommant la même quantité de nourriture. Il faut savoir qu'une vache produit autant de carbone par an qu'une voiture. Si nous réduisons le nombre de vaches, nous réduisons donc aussi les gaz à effet de serre dans l'atmosphère.
Pour l'instant, quels sont vos résultats ?
Nous avons investi 10 millions de dollars dans notre technologie sur 5 ans. Et aujourd'hui, nous avons signé un contrat avec le gouvernement indien pour utiliser cette technologie sur les 10 prochaines années. Nous avons d'ailleurs déjà commencé à fournir des agriculteurs.
Comment est-ce que vous décririez l'écosystème indien d'innovation ? Est-ce que la nouvelle génération a soif d'entreprendre dans ce pays ?
Oui, l'Inde a désormais une masse critique de citoyens éduqués. Une partie très importante de sa population est jeune. Et surtout, le marché intérieur est énorme. Beaucoup d'innovations sont d'ailleurs spécialement conçues pour ce marché de 1,3 milliard de consommateurs. Les jeunes peuvent donc tester les technologies les plus récentes sur ce marché pilote immense. Et si ça marche en Inde, ça peut marcher dans le reste du monde.
Jean-Joseph Boileau, il est là l'atout de l'Inde, sa jeunesse très nombreuse.
C'est un modèle fascinant, l'Inde, et parfois on est sévère, bien sûr, mais il faut en avoir une lecture qui est celle de son originalité. À la différence de la Chine, qui en gros a un mode de développement planifié par le haut, hiérarchique, qui reflète la tradition chinoise, tout simplement, on a dans le cas de l'Inde un modèle par le bas, un modèle d'innovation. Alors, moi, j'aime bien reprendre l'expression « jugad », hein, une innovation qui va faire plus avec moins, qui va transformer les obstacles en opportunités. C'est toujours ce qui m'a frappé en Inde, c'est qu'il n'y a jamais de problème, il y a toujours des solutions. Et cette jeunesse dont vous parlez, alors elle est moins jeune que la jeunesse africaine, mais comme elle est justement un peu moins jeune, il n'y a plus ce poids des très jeunes. La démographie indienne est déjà dans la phase de la transition démographique où le nombre de très jeunes a tendance maintenant à se contracter. Donc il y a une sorte de bulle, si vous voulez, hein, dans la transition démographique qui fait que toutes les générations de 15 à 35 ans arrivent à peu près en même temps sur le marché du travail. Et Sébastien Farcy vous a parlé du taux de chômage élevé, du sous-emploi considérable de ces jeunes. Et donc il faut se démener parce qu'il n'y a pas d'état-providence en Inde. C'est aussi une autre caractéristique de ce pays-là. Donc il faut trouver des solutions. On n'a pas de bol de fer, comme on dit en Chine, où l'État au moins vous apporte le logement et la nourriture. Et donc il faut innover sans cesse pour quoi faire ? Pour renverser les obstacles, faire que ces obstacles deviennent des opportunités. C'est comme ça qu'on peut expliquer que le téléphone mobile a connu en Inde un développement foudroyant et tout à fait original. L'utilisation du téléphone mobile en Inde n'est pas du tout celui qu'on voit en Chine. Il est plus proche de ce qu'on observe en Afrique. C'est un moyen de contourner les obstacles permanents, difficultés d'infrastructure, panne d'électricité, etc. Et donc, on a effectivement un pays qui est extrêmement innovant.
Jean-Joseph Boileau, on a commencé à parler de l'Afrique. Notre interlocuteur, notre jeune patron indien, nous disait « ce qui marche en Inde peut marcher ailleurs ». Est-ce que ça fonctionne pour l'Afrique ?
Bien sûr. Je vais prendre un seul exemple. Le smartphone, le hardware, ce qu'on appelle, est made in China à 90%. Pourquoi ? Bah parce qu'il y a la Chine qui est capable de sortir des smartphones à 50 euros pièce. Et l'Inde ne le fait pas du tout. Elle fait de l'assemblage, mais elle ne produit pas en tant que tel. Par contre, tous les modèles économiques que l'on voit aujourd'hui en Afrique sont des modèles économiques qui ont été expérimentés en Inde. Ainsi, le géant indien Airtel du téléphone qui avait expérimenté des solutions originales. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas d'argent. En 90% de la population ne peut pas mettre tous les jours 50 euros pour son téléphone mobile. Et donc, on a inventé le téléphone le moins cher du monde et dans des usages où il y a une sorte de proximité entre du téléphone et d'Internet, quasiment au même prix. Orange s'y est mis, le français Orange s'y est mis. Le modèle qu'utilise Orange, ce n'est pas le modèle français, c'est le modèle pour l'essentiel africain. Donc, en gros, pour une roupie, la minute de téléphone, il faut arriver à construire un modèle économique qui tourne. Personne ne sait faire, sauf les Indiens, et c'est ce modèle-là qui est arrivé effectivement en Afrique assez massivement.
L'Inde et l'Afrique, on part en Ouganda, où la diaspora indienne tient une place de choix dans l'économie du pays. Sur les 10 hommes d'affaires les plus riches d'Ouganda, 5 sont de nationalité ou d'origine indienne. Cette communauté, dont certaines familles vivent dans le pays depuis la fin du 19e siècle, engagée par les Britanniques pour construire le réseau ferroviaire, cette communauté contrôle de nombreuses grandes entreprises et offre de nombreuses opportunités aux nouveaux arrivants. Reportage à Kampala de notre correspondante Lucie Moulin.
Dans le large entrepôt au nord de Kampala, au milieu de ses salariés en combinaison verte, Jitu Soratia vérifie les différents produits qui sortent des machines hautes de plusieurs mètres de haut. Emballages plastiques, sacs poubelles, verres et assiettes à usage unique, depuis la création de son entreprise il y a 12 ans, l'homme d'affaires originaire de l'ouest de l'Inde a fait un long chemin.
Quand j'ai commencé, très peu d'entreprises collectaient les déchets plastiques. Il n'y avait pas de machines de recyclage modernes. Alors qu'en Inde, il y a beaucoup de compétition et on ne peut pas survivre avec un faible capital. Alors qu'en Ouganda, c'est possible parce que les marges de profit sont importantes. Donc c'est pour cette raison que j'ai créé une industrie plastique ici.
Arrivé en 2003, Jitu Soratia est passé d'un travail de comptable payé 150 dollars par mois à la création d'une entreprise de 500 salariés, un parcours rendu possible par l'aide de la communauté indienne forte de 30 000 personnes en Ouganda.
On obtient l'aide et les connaissances de chacun. On partage nos conseils sur comment planifier et comment monter son entreprise. Et surtout, on trouve parfois des partenaires et on se crée notre réseau d'entreprises parce que toutes les grandes industries ont besoin des autres.
En Ouganda, la communauté indienne est présente dans presque tous les secteurs de l'économie, en particulier dans l'agriculture, l'industrie et l'hôtellerie, 65% de toutes les taxes collectées sont payées par des entreprises ou des citoyens indiens, parfois dans le pays depuis des générations.
Hey, Nirav, how are you?
Téléphone toujours à l'oreille, Ali Azhar Jaffer, directeur du Fairway Hotel, l'un des plus luxueux établissements du centre de Kampala, représente cette communauté historique en Ouganda.
Ma famille a émigré ici au 19e siècle pour faire du commerce et cette maison appartenait à mon arrière-grand-père. Dans les années 60, mon grand-père a décidé de la transformer en hôtel. Mais quand Idi Amin a pris le pouvoir, ils ont dû s'exiler et le gouvernement s'est emparé de l'hôtel. Mon grand-père est revenu fin des années 80 et mon père a rejoint l'entreprise fin des années 90. Et maintenant, c'est mon tour, je travaille ici depuis 12 ans.
Selon le directeur de l'hôtel, l'Ouganda offre de nombreuses opportunités pour la communauté indienne, des opportunités qu'il n'aurait jamais eues après ses études au Canada.
Au Canada, j'aurais peut-être réussi dans le consulting ou comme employé ou comme partenaire dans une entreprise. C'est beaucoup plus difficile de commencer quelque chose en Occident. C'est plus cher, plus difficile. Ici, il y a tellement de possibilités. Les premiers mois étaient difficiles, mais tout marchait bien. Donc un an s'est transformé en deux, puis cinq. Et ça fait plus de 10 ans que je suis ici.
Dans le restaurant asiatique de son hôtel, Ali Azhar Jaffer pense désormais à l'avenir. Prochain projet pour l'homme d'affaires, investir dans le secteur agricole. Mais ces grandes entreprises représentent un défi pour Joseph Biomouanji, coordinateur de l'UCCA, le consortium ougandais pour la responsabilité des entreprises. De nombreux cas de violation des droits du travail et des droits humains concernent des compagnies indiennes.
There have been challenges largely around casualization of labor. It is a very big problem in the businesses.
L'un des grands défis est la précarité du travail, qui est un grand problème dans les entreprises dirigées en particulier par les Indiens. Les employés travaillent sans contrat, sans accord clair de paiement, sans arrêt maladie. L'un des autres grands problèmes concerne les plantations agricoles. La plupart des plantations de canne à sucre sont dirigées par des hommes d'affaires indiens. Nous avons fait des recherches, en particulier sur le travail des enfants, et c'est un problème qui a encore augmenté pendant la période de
Covid-19.
Selon Joseph Biomouanji, la responsabilité des entreprises n'est presque jamais rappelée par la justice, car les longs délais pour obtenir une audience découragent de nombreuses victimes.
Reportage de Lucie Mouillot à Kampala en Ouganda pour Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Jean-Joseph Boileau, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que l'Inde a une carte à jouer en Afrique, sur l'ensemble du continent? Est-ce que l'Inde peut concurrencer réellement la Chine et ou la France?
Alors, c'est parfois, évidemment, là encore, une sorte de, bon, de serpent de mer, une sorte de mythe qui est de dire que l'Inde va concurrencer la Chine sur le marché africain. Il y a d'abord de la place pour tout le monde, à mon sens, et y compris pour la France d'ailleurs, si elle travaille bien. C'est une présence aussi importante que la présence chinoise, mais qui n'est pas du tout justement visible parce qu'elle n'est pas en gros une présence qui s'est imposée d'en haut avec l'empereur qui vient avec ses banques, les hommes d'affaires chinois qui signent des contrats d'État à État. C'est des dizaines de milliers de fleuves qui innervent comme ça le continent africain, avec parfois en Afrique du Sud, là encore parmi les plus grands hommes d'affaires, je crois le plus riche d'Afrique du Sud, c'est un Indien qui avait eu d'ailleurs maille à partir parce qu'il avait marié sa fille et il avait privatisé l'aéroport public, je crois, de Pretoria à l'époque. Ça va aider éventuellement l'Afrique. Mais ce qui est dit votre correspondant, et c'est ce que j'ai pu voir sur place, c'est que ce n'est pas l'Inde la plus généreuse qui est présente en Afrique. C'est une Inde de ce qu'on appelle des banyas. Les banyas, ce sont des castes de commerçants qui, pour beaucoup d'ailleurs, viennent plutôt du Gujarat, un État qui est à l'ouest, si vous voulez, d'où le Premier ministre Narendra Modi est originaire, dont beaucoup sont des musulmans, d'ailleurs vous avez entendu les noms, et ces castes de banyas sont très fermées sur elles-mêmes et ont parfois une relation avec leurs employés, avec les travailleurs, qui est digne de ce qu'on voit en Inde, c'est-à-dire il y a une sorte d'idéologie de caste qui fonctionne et qui ne s'embarrasse pas d'humanisme, si vous voulez. Donc d'ailleurs, l'image de marque de l'Inde en Afrique en général n'est pas très bonne. Même le personnage comme Gandhi est extrêmement controversé un peu partout puisqu'il aurait été raciste dans son comportement vis-à-vis des Africains. Par contre, pour l'Afrique, je pense, la présence d'un acteur aussi original au sens vraiment propre du terme, comparé à la Chine ou à l'Europe, apporte effectivement, je pense, une plus-value dans les modalités de développement qui vont être utilisables par les Africains eux-mêmes.
Toute dernière question, Jean-Joseph Boileau. On a entendu parler dans le reportage du traitement des déchets plastiques. On a entendu parler dans un autre témoignage des émissions de CO2. Quelle est la position de l'Inde face au respect des obligations climatiques? Tout le monde parle de la Chine, tellement polluante, mais est-ce que l'Inde est vraiment différente de la Chine?
Elle a une différence, c'est moins, là encore, son engagement volontaire que le fait de se retrouver aujourd'hui dans la nasse écologique de la catastrophe qui est en train de voir le jour. C'est-à-dire que par point de PIB, donc pour un point de PIB, le taux de pollution en Inde est nettement supérieur à celui de la Chine. Et d'ailleurs, ça se voit quand on est en Inde. Et donc, le problème de l'Inde, là encore, c'est de ne pas tomber dans la trappe écologique. Et pour cela, elle a, de façon très judicieuse, rebondi sur les grandes conférences internationales pour prendre des engagements qui sont cohérents avec les engagements internationaux et qui vont lui permettre de se sortir de la crise écologique considérable, à la fois les plastiques, mais aussi la question du charbon et autres. C'est un secteur dans lequel il y a des gisements d'opportunités, avec là encore des modèles économiques particulièrement intéressants dans la façon dont l'éolien s'est développé, dont le solaire se développe, et qui peut, là encore, permettre parfois des coopérations entre l'Afrique et l'Inde qui sont complémentaires. Vous voyez, il ne faut pas opposer l'un à l'autre, mais qui sont complémentaires de la façon dont la Chine apporte ses solutions au marché africain. Et là encore, peut-être, des modèles indiens sont un peu plus adaptés à la situation en Afrique, ne serait-ce que par le système démocratique qui quand même l'emporte en Afrique et pas du tout en Chine.
Merci Jean-Joseph Boileau. Je cite votre dernier ouvrage, Utopie Made in Monde, le sage et l'économiste, paru aux éditions Odile Jacob. On va se quitter avec le tube du moment en Inde, Srivali d'Alu Arjun. J'espère que je prononce bien, une musique qui nous est conseillée par notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farsi. 27 millions de vues sur YouTube. Merci à tous d'être au rendez-vous d'Echo d'ici, Echo d'ailleurs, RFI Echo sur Facebook et sur Twitter pour poursuivre la discussion. Merci à Guillaume Munier, notre réalisateur, qui apprécie beaucoup la chanson. À la semaine prochaine, portez-vous bien.
లాట్టి పెట్టి కలుగుతా ఉండవా పాలు ఇరిగిపోతాయా ఏం సార్ ఇదే మేము యాపారం చేసుకోదా మారిపోయి ఉండవు సార్ మేము
అన్నిటికీ ఎప్పుడు ముందుండే నేను నీ వెనకే ఎప్పుడు పడుతూ ఉన్నాను ఎవరికి ఎప్పుడూ తల వంచని నేను నీ పట్టి చూసేటందుకు తలనే వంచాను ఇంత బతుకు బతికి
తనను
చూస్తే చాలు చాలనుకున్నానే
tout à l'heure sur RFI.